la chronique de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi cette émission et surtout cette chronique de Jean Mauduit. Jean Mauduit consacre cette chronique aux femmes écrivains. Et je crois qu'il a le plaisir de recevoir aujourd'hui une femme écrivain, éditorialiste à Elle, le journal féminin très connu, Marie-Françoise Colombani. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les deux. Bonjour Madame Colombani.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jean Mauduit. Alors, quel est le livre de Marie-Françoise Colombani que vous avez décidé de nous présenter aujourd'hui ?
Alors, un livre qui a beaucoup de sens à mes yeux et auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle « Millennium, Stieg et moi ». Et derrière ce titre un peu crypté se cache le journal, on peut dire, l'épopée, on peut dire aussi, d'Eva Gabrielson, qui est, je n'ose pas dire la veuve, disons la compagne de l'auteur de ce succès mondial, 50 millions d'exemplaires. Et si j'ai demandé à Marie-Françoise Colombani de venir avec moi aujourd'hui, c'est d'abord parce que c'est une amie et surtout parce que son bouquin m'a complètement fasciné. Elle est en effet le co-auteur avec Eva Gabrielson de ce livre vraiment pas comme les autres. Première question, Marie-Françoise, qu'est-ce qui vous a amené à prêter votre plume à Eva Gabrielson ?
Je dirais d'abord son désarroi, son désespoir et son sentiment d'abandon, parce que je suis allée l'interviewer pour le journal Elle, c'était au mois de février, et il paraît que j'étais la première journaliste à avoir l'idée de lui demander de parler de son compagnon. Et moi, je voulais surtout lui parler de Millennium. Et donc, par téléphone, elle a dit d'accord. Elle m'a donné rendez-vous dans un appartement vide, désaffecté. Et je me suis demandé si elle était paranoïaque ou quoi. Il n'y avait personne, il y avait une table et une chaise. Et puis cette femme, chaque fois que je lui parlais de Millennium, elle éludait le sujet. Donc, à un moment donné, je n'ai pas compris, je venais pour ça. Et en fait, elle a expliqué que Millennium, pour elle, c'était synonyme de tragédie totale. D'abord parce qu'elle avait perdu son compagnon. Et puis qu'elle était dépossédée, non pas des bénéfices de ce livre, parce que ce n'est vraiment pas ça qu'elle met en avant, mais de la propriété morale de cet homme. Et cet homme était quand même un militant contre l'extrême droite et contre le nazisme. Il avait fait beaucoup de publications justement sur ces domaines-là. Et elle avait peur que toutes ces publications, tous ces livres contre l'extrême droite soient récupérés par ce qu'elle appelait l'industrie Millennium et soient publiés sous l'appellation Après Millennium, Les Secrets de... et tout et tout. Et j'ai vu une femme est complètement désespérée pour ça. Et je lui ai dit, mais vous n'écrivez pas un livre ? Elle m'a dit, oui, oui, j'y ai pensé, je suis en train. Alors j'ai dit, ben, ce sera formidable à lire pour tous ces lecteurs et tout. Puis on s'est quitté. Le lendemain, elle m'a donné rendez-vous chez elle. Donc là, je me suis dit, tiens. Et j'ai trouvé, je pensais que j'allais arriver dans une maison en bois, comme dans Millennium, au bord du lac. Pas du tout, c'était une HLM minuscule, 4 étages sans ascenseur. Et j'ai vraiment vu que cette femme vivait dans un dénuement total. Et en plus, à cette époque, je l'ai su après, comme l'appartement rentrait dans l'héritage, elle craignait que le père et le frère de Stieg Larsson, qui avaient donc hérité légalement, lui reprennent cet appartement. Donc il y avait des cartons partout. Elle avait préparé ses valises et elle était prête à être mise à la porte, quoi.
Et comment ça a pu se passer, cette exclusion extraordinaire ?
Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en Suède, le concubinage n'est pas reconnu. Et donc, tout simplement, lorsqu'il a publié ce livre, d'abord, quand il a rendu son livre, il est mort. Donc, il a eu une crise cardiaque, il était cardiaque, c'est quelqu'un qui ne se ménageait pas. Un jour, il s'occupait d'un journal qui s'appelle Expo, dans lequel on peut retrouver le journal Millennium. Il est monté 7 étages sans ascenseur parce qu'il était en panne, il est arrivé là-haut, il est mort d'une crise cardiaque. Et il n'a jamais su que son livre, son premier volume, allait avoir ce succès. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les éditeurs, ils avaient un contrat. Ils se sont aperçus que ce contrat, pour des raisons techniques, n'était pas totalement finalisé. Comme c'est une énorme boîte, ils ont dû avoir un service juridique qui a dit « bon ben, il faut une autorisation ». Qui a le droit de... Eh ben, le droit, les ayants droit, c'est le père et le frère. Et elle, elle ne représentait rien. Elle n'était rien, malgré leurs 32 ans de vie commune.
Ça interpelle, ça, sur la condition des femmes en Suède.
Alors, d'abord, sur une première chose, c'est que beaucoup de 68ards, d'ex-68ards, se sont aperçus à cette occasion qu'ils étaient dans la même situation que Stieg Larsson et Eva Gabrielson. Donc, oui, ça a déjà provoqué une espèce de raz-de-marée de mariage.
Je vais vous faire une confidence. Ma gouvernante, ayant lu votre bouquin, a décidé de se marier.
Ah bah.
Parce qu'elle a pris conscience de la fragilité de la situation où elle se trouvait. Elle est en train de faire des pieds et des mains pour forcer son bonhomme, si je puis dire, à accepter le mariage.
Ah oui, c'est...
Donc vous voyez que c'est un livre détonnant.
Ah oui, oui, ce qui ne provoque pas toujours les réactions qu'on imagine. Et effectivement, alors vous dites la condition des femmes. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Stieg Larsson était un très grand féministe. Il a contribué à des ouvrages sur justement la condition des femmes en Suède. Et c'est vrai qu'elle n'est pas spécialement amusante. Alors bien sûr que sur le papier, il y a l'égalité des salaires, le congé paternel qui est pris. Mais dans le fond... C'est pas du tout l'espèce d'image d'Épinal ou de Heidi qu'on imagine. Hein. C'est une société assez rude. C'est peut-être dû au climat. Quand on vit la moitié de l'année dans le noir et l'autre moitié dans le jour, peut-être que ça exaspère comme ça les sentiments. Et bon, ce n'est pas un pays effectivement féministe. Et je pense que Millennium a écorné très fortement cette image.
Oui. Et vous parliez de nazisme tout à l'heure, il y a encore des nazis en Suède ?
Eh ben, on a bien vu que tout ce qu'il dit dans son livre est prémonitoire, puisqu'il se... les nazis, n'exagérons pas, du moins un parti d'extrême droite, très d'extrême droite, est rentré au Parlement aux dernières élections. Donc effectivement, il tirait des sonnettes d'alarme, parce qu'il a travaillé aussi en France avec un politologue qui s'appelle Jean-Claude Camus, qui travaille beaucoup sur l'extrême droite. Et donc il était très, très, très... en alerte sur ces problèmes-là. Et voilà. Et d'ailleurs, Olaf Palme, à l'époque, avait été assassiné par des groupuscules. Et donc, lui suivait tout ça. Et c'est pour ça que la première fois où Eva Gabrielsson m'a reçue, c'était dans un appartement désaffecté qu'elle s'était fait prêter. Parce qu'ils étaient très, très prudents. Ils étaient suivis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'étaient pas mariés. Parce que, en Suède, n'importe qui peut avoir accès à le registre matrimonial et donc n'importe qui peut savoir avec qui vous êtes marié, du coup où vous habitez, quels sont... Et donc lui, il savait qu'il était suivi. Il y avait des exemples parmi leurs amis qui étaient dans la même mouvance anti-extrême droite et donc du coup, ils avaient préféré ne pas se marier alors qu'ils avaient prévu 20 ans avant, ils avaient acheté des alliances, enfin tout était prévu, mais ils ne se sont pas mariés, tout était sous son nom à elle et au moins il y avait cette espèce de sécurité minimum, quoi.
Bien sûr. Est-ce que votre livre apporte des clés pour une relecture de Millennium ?
Quand on est fan comme vous et moi de Millennium, comme effectivement il y a énormément de fans, pour ne pas dire fanatiques de Millennium, c'est délicieux d'apprendre d'où vient telle anecdote, d'où vient cette anecdote. Et puis surtout, pour les fans de Millennium que nous sommes, elle donne quand même quelques pistes sur ce fameux quatrième volume dont on ne sait pas où il est et de quoi il est fait, c'est ça.
Il semblerait qu'il existe partiellement et que Eva en détienne une partie.
Écoutez, je vais vous faire une confidence. Oui, elle sait où il est, elle sait qui l'a. L'histoire est la suivante, c'est qu'il était dans un ordinateur sur lequel il avait également toutes ses notes, ses contacts, tout ça. Cet ordinateur, quand il est mort, est resté expo dans ce journal. Il paraît, ça, c'est pas dans le livre, mais elle me racontait que quelques semaines après, elle est venue, il traînait au milieu des cartons de pizza ouverts, des canettes et tout. Et à un moment donné, elle a dit, il faut en faire quelque chose. Elle l'a mis de côté. Et à ce moment-là, les héritiers ont demandé cet ordinateur, puisqu'ils savaient que le quatrième volume était dedans. Mais dans la constitution suédoise, il y a quelque chose qui dit que les informations, les informateurs, les sources sont sacrées et protégées. Et comme dedans, il y avait donc tous les contacts de Stieg Larsson pour ses recherches, ils n'ont pas pu demander juridiquement devant un tribunal que soit rendu l'ordinateur. Donc elle sait où il est, elle sait ce qu'il y a dedans. Il y en a à peu près 200 pages et elle est tout à fait capable, dit-elle, de le finir. Puisqu'elle dit aussi que le hasard de la vie fait que c'est lui qui a écrit Millennium, mais elle aurait pu l'écrire aussi puisque leur vie est tellement imbriquée dans les romans policiers. Et de savoir que leur vie était un roman policier, ça c'est très très étonnant.
C'était des bourreaux de travail tous les
deux. Ah mais c'était... C'était leur vie, quoi. Et lui, il s'est tué. Comme ça, ils ont une vie très, très modeste, très modeste. Tout leur argent partait dans leurs recherches, dans des achats de livres. Il y en avait des quintaux. Et c'est des gens très, très modestes. Elle dit qu'elle ne se rappelle pas d'avoir acheté un vêtement autrement que dans des fripes. Et quand vous pensez à l'énorme fortune qu'aujourd'hui ça représente, parce que c'est effectivement 50 millions de livres, mais c'est aussi des films pour la télévision, un film pour le cinéma, un remake en ce moment qui est en train de tourner aux États-Unis. Donc c'est des sommes considérables. Je ne sais même pas à quel livre on peut comparer cette trilogie.
Hélène, votre réaction devant ça?
Là, moi, je
vous êtes bien sage derrière votre micro, vous ne
parlez
pas.
Oui, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé avec Madame Gabrielson.
Quel genre de femme c'est?
Comment vous avez écrit avec elle?
Alors, attendez, je réponds à Hélène. Alors, c'est vraiment un exemple de la réussite de ce que pourrait être une mondialisation, et du moins de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle a d'abord écrit un manuscrit en suédois. Donc, comme je ne parle pas le suédois, on me l'a traduit. Là, j'ai vu que, bon, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Donc, je lui ai demandé de venir en France. Là, on a eu une traductrice qui se posait mes questions, les questions étaient traduites en suédois et retraduites en français au fur et à mesure. Donc, j'ai fait décrypter tout ça. J'avais une somme de documents sur laquelle j'ai travaillé avec sa traduction suédoise. Et comme elle avait peur qu'il y ait des fuites, nous nous sommes retrouvés. Alors d'abord, il y a eu une étape par Internet. Je lui posais des questions en anglais, auxquelles elle répondait en anglais. Tout ça, après, j'ai tout remué, j'ai fait un livre. Et nous nous sommes retrouvés en Norvège, ce qui n'était pas très simple, effectivement. Et on s'est retrouvés en Norvège. Mais avant de se retrouver en Norvège, on lui a traduit le livre en norvégien. Parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit traduit en suédois, de peur qu'il y ait des fuites. Donc, on lui a traduit le livre en norvégien. Nous avons travaillé ce jour-là, avec une traductrice norvégienne, Eva, qui est suédoise, et moi, toutes les corrections, on me les retraduisait en français, je les reportais sur le livre français, qui lui a été retraduit en norvégien et présenté. Et comme elle parle norvégien couramment, là, elle a regardé, et ensuite, elle a surveillé de très près la traduction suédoise. Donc, vous voyez, c'est quand même... Et nous nous aimons beaucoup et ça s'est très bien passé. Voilà,
c'est vous avez écrit au moins 3 livres, là.
Ah non, mais c'est vrai que parfois, je me pinçais. Je me disais, mais pourquoi faire simple quand on peut faire très, très, très compliqué? Alors, vous me demandiez quel genre de femme était-elle? Quelqu'un de... Elle a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'une intégrité, d'une fidélité. Et donc, avec elle, c'est à la vie, à la mort, quoi. Il ne faut pas la trahir comme lui. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a quand même quelque chose... C'est incroyable, ce sont des gens qui ont été élevés par leurs grands-parents dans une partie de la Norvège située à l'extrême nord et donc très 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 retirée. Et donc elle dit que c'est comme s'ils avaient sauté une génération puisqu'ils n'ont pas été élevés par leurs parents. Donc elle a vécu leur petite enfance comme si elle s'était déroulée au 19e siècle. Et à cette époque, l'influence de la Bible était énorme, donc de l'Ancien Testament. Et donc pour elle, pour eux deux, il y avait une devise, c'est on doit se venger et on doit venger ses propres amis s'ils ont été trahis ou abusés. Et donc c'était, et d'ailleurs le 4e volume devait s'appeler « La vengeance de Dieu ». Et c'était mais une ligne, mais une contrainte mais qu'on ne peut pas contourner. Et dans ce livre-là, elle raconte quand même quelque chose qui m'a halluciné. C'était dans son manuscrit, c'était 3 lignes. Et donc, je pensais même qu'on pouvait le faire sauter, c'était pas très intéressant. Mais quand elle est venue en France et qu'on en a parlé, j'étais stupéfaite de découvrir que ces 3 lignes cachaient une cérémonie secrète que nous avons beaucoup développée dans le livre, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la mythologie viking, qu'elle a trouvé du fin fond des textes anciens, et qui consistait à l'époque à couper la tête d'un cheval, à le ficher sur un pieu sur lequel était inscrit une espèce de malédiction, et de tourner la tête du cheval ensanglanté vers son ennemi, qui le matin, quand il se réveillait, vous imaginez sa surprise et son bonheur de voir cette scène horrible. Et donc, en fait, la malédiction s'étendait sur une période qui correspondait à la contrition de l'ennemi. Donc, elle, avec quelques amis, qui sont tous des intellectuels, des érudits...
pratique cette magie encore.
Voilà. Non, elle avait besoin d'avoir une espèce de catharsis sur ce choc violent. Et elle n'arrivait pas à se guérir de sa colère. Parce qu'elle savait, pas par rapport à l'héritage, hein, elle savait que s'il était mort, c'était parce que les gens ne lui avaient pas fait confiance, qu'il s'était battu pour trouver de l'argent pour ce journal Expo, qu'il s'était dépensé sans compter et qu'on l'avait humilié. Et elle pensait que si cette crise cardiaque était arrivée si tôt, c'est parce qu'il avait beaucoup souffert de stress, de fatigue et tout. Et, tout. Et donc, elle a des ennemis sans doute. Et donc, pour sortir cette colère, cette souffrance, elle a cherché dans la mythologie quelque chose qui pourrait l'a soulagée. Et elle a trouvé donc cette cérémonie secrète. Alors, bon, rassurez-vous, elle n'a pas coupé la tête d'un cheval parce qu'en plus, elle adore les animaux. Mais le 31 décembre 2004, c'est-à-dire un mois et demi après sa mort, ils se sont réunis au bord du lac à 11h30 du soir. Ils ont lu une espèce de texte incantatoire pour dire, alors dans le livre, elle dit « Malheur à toi qui a fait ça », mais on ne sait pas qui c'est. Que Odon envoie ses corbeaux pour vous picorer les yeux, le cerveau. Enfin, vous voyez, vous dites, il vaut mieux être ami avec ces gens-là que fâché.
Des fois que ça marche.
Et à la fin de la cérémonie, elle avait une statuette avec deux chevaux collés. Elle en a cassé un, elle l'a jeté dans le fleuve. Ils ont arrosé de whisky parce que whisky fait à base de houblon, qui est la nourriture des chevaux. Et tout ça, c'est parti sur les traces du chemin passé des Vikings. Et la malédiction doit effectivement. La malédiction ou la prise de conscience de leur faute, de tous ces gens qui ont poussé...
C'est curieux quand même cette rencontre du cruel lieu des Juifs, à l'origine, et de Odin.
Oui, c'est une...
C'est culturellement fascinant.
Est-elle apaisée maintenant? Avez-vous rencontré une femme plus apaisée?
Écoutez,
toujours en colère?
Non. Maintenant, elle est, disons, apaisée, oui, d'une profonde, profonde tristesse, bien sûr. Surtout que, vous savez, vous allez à Stockholm, dans la gare, vous avez déjà des pancartes Millennium. On vous donne un plan de la ville, un plan sur lequel il y a écrit Millennium. On vous propose de faire, en circuit touristique, la visite des adresses de Millennium. C'est Millennium lui revient, mais... Je sais pas, des centaines de fois par semaine, vous voyez.
Et depuis que le livre est publié, comment l'a-t-elle accepté? Comment l'a-t-elle accueilli?
Alors écoutez, il se passe quelque chose quand même encore cruel. C'est-à-dire que le père et le frère de Stieg Larsson n'ont pas du tout apprécié ce livre. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de faux dans ce livre, sinon ils auraient attaqué. Mais donc du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un site en suédois, en norvégien, en anglais et en français, dans lequel ils reprennent un petit peu... Je dirais presque page par page ce qu'elle dit et leur vérité. Mais en fait, c'est leur parole contre sa parole. Parce que c'est des choses assez... Non, nos parents nous ont élevés. Mais bon, elle dit non, il a été élevé par ses grands-parents. Donc, il n'y a pas de preuve. D'abord, il n'y a pas de rectification terrible. Mais c'est long, hein. Ça fait au moins 40-50 pages, ce blog. Vous voyez, Millennium, c'est une histoire dans l'histoire, qui s'ouvre comme ça, en abîme, on découvre des secrets.
Et vous, dans tout ça, Marie-Françoise?
Eh ben, moi, j'ai été passionnée par ma découverte de ce pays, parce que j'ai découvert une littérature comme celle de Peter Hultqvist, qui est d'ailleurs l'invité au Salon du Livre, puisque cette année, c'est la littérature nordique. J'ai découvert... une littérature extrêmement foisonnante, sombre, vraiment sombre, et que nous, qui s'est vulgarisée en France avec l'énorme succès des polars nordiques, qui est un phénomène assez récent.
Merci Marie-Françoise Colombani, merci Jean Mauduit. Je vais simplement rappeler que Millennium, Stieg et moi, c'est le titre du livre, est paru aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous.